Marchande de sable, conte d'une grand-mère vietnamienne, par Yveline Ferré. Tam et Cam, depuis quand le gâteau de riz a-t-il des arêtes? Depuis quand la marâtre aime-t-elle les enfants de son mari? En ce temps-là, vivait près de la cité du dragon qui s'envole, Phang Long, la capitale, deux jeunes demi-sœurs, l'aînée nommée Tam, brisure de riz, et la cadette Cam, son de riz. Nées du même père, leur mère était l'une femme de premier rang, l'autre de second rang. Quelques années après la mort de son épouse première, la mère de Tam, le père avait rejoint à son tour ses ancêtres au royaume des ombres. Depuis lors, la famille, privée de son chef, vivait dans la gêne et Tam, l'orpheline, ravalée par l'épouse de second au rang de servante, connaissait toutes les vicissitudes de ce monde de poussière. C'était vraiment le cas de dire « Comme le buisson de bambou doit se courber devant le vent qui souffle, je dois me courber devant vous, marâtre, à cause de mon père. » Pourtant, malgré le sort malheureux qui maltraitait ses joues roses, Tam, en grandissant, croissait en beauté. Yeux de phénix, sourcils arqués en demi-lune au-dessus d'un lac de la mi-automne, chevelure longue et soyeuse de nuages, taille souple de jeune saule. Rien qu'à la voir, Cam, dont le nez regardait la bouche, et sa mère sentaient monter en elle le vinaigre de la jalousie. Vint la saison des hautes eaux propice à une bonne pêche sans bourse déliée dans les rizières inondées. Un matin, ayant ordonné aux jeunes filles de prendre chacune une corbeille plate de bambou, la marâtre leur fit cette promesse. Un cache-sein vermeil à celle qui me rapportera le plus de poissons. Sitôt sur place, Tam retroussa ses vieux pantalons élimés et entra dans l'eau. Le soleil montait dans le ciel. Malgré la réverbération sur les eaux, la vase du fond qui s'insinue entre ses orteils, les sangsues agrippées à ses mollets, elle allait courbée sur la rizière, interpellant de temps en temps Cam, la paresseuse, en train de s'amuser d'un rien sur les diguettes. Si bien qu'au milieu du jour, sa corbeille était déjà pleine. Ce que voyant, Cam se mit à lui chanter. « Ma sœur aînée Tam, ta tête est tachée de boue dans la mare, va donc te laver si tu ne veux pas être frappée. » Pendant que Tam se lavait, elle transvasa lestement la corbeille de sa sœur dans la sienne, puis fila vers la maison comme si elle avait des ailes. À elle, le beau cache-sein rouge. Quand une fois lavée, Tam sortit de la mare, sa corbeille était vide, envolée le fruit de sa pêche, et Cam avait disparu. Sachant à quoi s'en tenir, elle se mit à verser des larmes amères, désespérée à l'idée de rentrer à la maison les mains vides pour y subir le rotin. Vraiment, elle était on ne peut plus seule, on ne peut plus orpheline, telle une lentille d'eau à la dérive, et elle sanglotait éperdument. C'est alors que le Bouddha, avec son large sourire compatissant, lui apparut. « Ne pleure plus, mon enfant. Regarde encore dans ta corbeille. Y reste-t-il quelque chose ?»« Oui, vénérable ancien. Trois bateaux et un petit gobi. » »« Eh bien, dit le Bouddha, lâche le gobi dans le puits de la maison. Nourris-le d'un bol de riz en l'avertissant à chaque fois par ces mots. Gobi, gobi, monte à la surface de l'eau manger mon riz d'or et d'argent. Dédaigne le mauvais riz et le potage léger d'autrui. » Et là-dessus, le Bouddha disparut, laissant flotter derrière lui son consolant sourire. Tam porta donc en grand secret le poisson gobi dans le puits pour le nourrir, et s'en faire comme qui dirait un petit frère à elle, et remit les trois barbeaux à sa marâtre. Celle-ci observa aigrement qu'il y en avait bien peu, et qu'en conséquence sa fille Cam aurait le cache-sein vermeil. Encore heureux qu'elle ne tâte pas du rotin. Furtivement, chaque jour, Tam portait au puits le bol de riz dont elle se privait pour son poisson. Quelle joie de le voir apparaître en frétillant au seul son de sa voix, de partager leur repas comme frères et sœurs véritables. Les tâches les plus pénibles lui semblaient maintenant plus légères. Peu importait que Cam passât son temps à ne rien faire quand elle faisait tout, que Cam eût de beaux vêtements quand elle ne portait que des guenilles, que Cam fût choyée quand elle était maltraitée, Tam désormais se sentait moins seule. Elle avait désormais quelqu'un à aimer. C'était sans compter sans sa demi-sœur toujours à l'affût, qui, l'ayant espionnée, s'en fut tout raconté à sa mère sur le poisson que Tam nourrissait dans le puits et les paroles magiques qu'elle prononçait. Le lendemain, sous un faux prétexte, la marâtre commanda à Tam de mener leur buffle paître loin, très loin du village. Après son départ, munis d'un bol de riz, la mère et la fille s'enfurent au puits. « Gobi, Gobi !» appela Cam en imitant la voix de Tam. Tout frétillant, le petit poisson bondit hors de l'eau. Aussitôt, la marâtre s'en saisit, le coupa en trois morceaux et le mit à cuire dans la marmite avec de la saumure. Puis, il fut mangé. Quand Tam, de retour à la maison, se rendit au puits, elle eut beau appeler son poisson 6 fois de suite sur tous les tons pour qu'il vînt manger son riz, aucun petit gobi ne répondit. Comme elle se penchait pleine d'interrogations, elle aperçut soudain, flottant sur l'eau, une goutte de sang caillé et comprit que le poisson qu'elle avait élevé comme un vrai petit frère avait été tué, qu'elle ne le rêvait plus jamais. Hoï, troï, hoï, était-ce possible? Si grande fut sa peine que ses entrailles se déchirèrent pendant que les larmes ruisselaient en pluie sur son visage. À cet instant, précédé par son large courrier compatissant, le Bouddha de nouveau lui apparut qui lui parla ainsi. « Ton poisson a été mangé, mon enfant. Mais retourne à la maison et rassemble ses ossements. Mets-les dans 4 petits pots de terre et enterre-les aux 4 angles de ton bas-flanc. » Tam souhaitait de tout son cœur obéir aux ordres du Bouddha. Mais où chercher les ossements du poisson? Près de la jarre d'eau? De la palissade de bambou? « Cocté, cocta !» lui dit une poule en chantant. « Donne-moi une poignée de riz et je trouverai pour toi les os de ton gobi. » Vite, Tam jeta une poignée de padi et la poule gratta, fouilla et découvrit les ossements que la jeune fille se hâta de recueillir dans 4 pots, ainsi que le Bouddha lui avait dit. La fête de la mi-automne approchait. Dans Phang Long, la capitale et ses environs, on ne parlait que des 100 spectacles, marionnettes sur eau, procession des lanternes et autres merveilles dont l'empereur, fils du ciel, en ce 5e jour du 8e mois, réjouirait ses sujets. Tam brûlait d'envie d'y aller aussi. Mais le jour venu, la marâtre lui remit un lourd panier de riz et de padi mêlés. « Sépare le riz du padi, » fit-elle en ricanant, « et tu pourras nous rejoindre à la fête. » Puis, parés de leurs plus belles tuniques et de leurs pantalons de soie, mère et fille s'en allèrent se divertir à la capitale, pendant que Tam, devant cette tâche insurmontable, n'avait que ses yeux pour pleurer. Une fois encore, le Bouddha lui apparut. « Ô vénérable ancien, mon cœur se fend jusqu'aux larmes de l'envie d'aller à la fête du roi. Même si je parviens à trier le riz et le padi de ce panier, la fête, hélas, sera terminée depuis longtemps. » À ces mots, le Bouddha fit surgir des nuages une volée d'oiseaux pour l'aider. La pauvre Tam, éplorée, tremblait qu'il ne mange les grains. C'est pour le coup qu'au retour de sa marâtre, elle recevrait le rotin. Le Bouddha la rassura. « Ne crains rien, je leur ai interdit de prendre ton riz et ton padi. » En moins de temps qu'il n'en faut pour mâcher une chique de bétel, le travail fut achevé. Cependant, Tam continuait de pleurer. Comment oserait-elle ramener sa face à la fête du roi dans ses guenilles? « Va chercher les 4 pots contenant les ossements du poisson gobi, enterrés aux 4 angles de ton bas-flanc. Ils contiennent ce qu'il te faut. » Ensuite, il disparut. Tam courut déterrer les pots. Avec des exclamations et des invocations infinies au saint nom de Bouddha, elle en sortit des atours dignes d'une immortelle. Qui, à la voir ainsi parée de soie brodée de grues voltigeant parmi d'impalpables brumes, ainsi coiffée d'une tiare sertie de joyaux et ainsi mignonnement chaussée de petites sandales d'or et de perles, ne se serait exclamé « Voilà une beauté à faire plonger les poissons et tomber les oies sauvages !» Le 4e pot, enfin, contenait un cheval lilliputien, qui, dès qu'elle l'eut posé à terre, devint un superbe coursier richement caparaçonné, surmonté d'un parasol à franges dorées. Dans cet équipage, tel un lotus éclatant, elle se rendit à la fête. Sur son passage, le peuple admiratif de Phang Long se demandait d'où elle venait, les uns la prenant pour une de ces belles aux nuages de rose, exilées sur terre, les autres, une princesse lointaine à la figure de fée. L'apercevant de loin, Cam s'exclama « Maman, maman, je n'en crois pas mes yeux de chair. Là-bas, n'est-ce pas ma sœur Tam ?»« Ta sœur Tam, si magnifiquement parée, voilà qui serait bien extraordinaire. Cette souillon est à la maison qui trie toujours à 7 heures le riz et le padi que j'ai mélangé. » Navette sur le métier, les heures à la fête filaient. S'avisant tout à coup qu'il lui fallait être à la maison avant le retour de sa marâtre, Tam fit volte-face. Elle venait de s'engager sur le pont de bois de la rivière Toli, non loin de la cité royale, quand il se fit soudain un grand vacarme de gongs et d'exclamations. « Prosternez-vous ! Prosternez-vous ! » criaient les gardes à front tatoué de sa majesté. « place, l'empereur fils du ciel passe. » Dans sa précipitation, Taham perdit une de ses sandales qui tomba dans la rivière, près de la berge. Sans s'attarder à la chercher, elle s'éclipsa au galop. Quelques instants plus tard, comme le cortège royal passait par là, l'éléphant du roi, avec des barrissements à réveiller le ciel et la terre, s'arrêta net, refusant d'aller plus loin. C'était tout à fait inhabituel. Des grands dignitaires qui composaient la suite impériale aux petits serviteurs qui portaient parasols et services de bétel, tout le monde était stupéfait. Intrigué, l'empereur ordonna donc à ses gardes d'aller fouiller la rivière et la berge sous le pont pour voir s'il n'y avait pas là, en effet, quelque chose d'extraordinaire. Peu après, les gardes sortaient de l'eau et rapportaient une mignonne sandale de femme en or, sertie de perles. À sa vue, le cœur de l'empereur s'émut d'étrange façon, car elle ne pouvait qu'appartenir à une femme très belle, en tout point digne d'être son épouse. La nuit suivante, se tournant et se retournant sur sa couche au long des veilles, cette idée devait le hanter. Si bien qu'au petit matin, un eunuque était expressément chargé d'aller faire essayer la sandale à toutes les jeunes filles présentes à la fête. Recru de fatigue, il avait visité sans résultat toutes les maisons de la capitale et des environs lorsqu'il parvint chez la marâtre. En dépit de tous ses efforts, le pied de Kaam, lui non plus, n'était pas assez petit pour y pénétrer à l'aise. « Monsieur l'eunuque, puis-je l'essayer ?» demanda timidement Taham. Quand les cloches de cuivre et les tantames de bronze ne peuvent triompher, comment une jarcassée pourrait-elle l'emporter ? S'esclaffa sa marâtre. Cependant, l'eunuque du gynécée, en fait de beauté, avait l'œil exercé. « Veuillez essayer, mademoiselle. » Ô surprise manifeste des uns, ô fureur rentrée des autres, la petite sandale d'or et de perles s'adaptait parfaitement à son mignon pied cambré. Alors, obéissant aux ordres, les gardes à front tatoués de sa majesté portèrent solennellement Taham en palanquin jusqu'au palais où elle devint reine. Douce, belle et généreuse épouse tendrement aimée de l'empereur au fil des jours, leur union était telle qu'on pouvait dire. Le sort prédestiné en les liant l'un à l'autre a uni l'abricotier au bambou et harmonisé les accords du luth avec ceux de la lyre. À quelque temps de là, devant sacrifier au rite d'anniversaire de la mort de son père, Taham obtint de l'empereur la permission de revenir à son village natal. Les époux s'étant séparés à regret, Taham, chargé d'offrandes, arriva chez sa marâtre pour la cérémonie. Bien que la réussite parfaite de sa belle-fille lui eût rendu de fureur le foie noir et les entrailles violettes, c'est avec des paroles sucrées, des sourires doucereux et les marques de l'affection la plus vive que celle-ci, imitée par sa fille Kaam, accueillit Taham à sa descente de palanquin. Aucun ne peut nier que face à la hauteur des montagnes et à la profondeur des océans, seul le cœur de l'homme est insondable. Ne serait-ce pas faire preuve de la plus grande piété filiale, dit-elle à Taham, que d'aller au sommet de l'arriquier cueillir de tes propres mains comme autrefois les noix destinées à l'autel de ton père ? Taham, sans méfiance, se dépouilla de ses vêtements magnifiques pour grimper à l'arriquier. Quand elle fut parvenue au sommet, la marâtre, aidée de sa fille, attaqua le tronc à la hache. « Que faites-vous, belle-mère ? » cria Taham, secouée à l'est et à l'ouest, en se cramponnant à l'arbre de toutes ses forces. « Je chasse les fourmis de peur qu'elles ne te piquent !» cria celle-ci en continuant de plus belle. Dans un craquement sinistre, l'arbre s'effondra, projetant Taham dans l'étang voisin où elle se débattit longtemps avant de couler et de disparaître. Quand la dernière bulle d'air eut crevé à la surface de l'eau, « À ton tour maintenant d'être reine !» dit la marâtre à sa fille. Et elle lui fit revêtir les magnifiques atours de Taham avant de la renvoyer au palais prendre la place de sa sœur aînée. Si on te questionne, tu n'auras qu'à dire que la reine s'est enfuie de la maison au beau milieu de la nuit, que nous l'avons cherchée en vain jusqu'au matin et que, redoutant la colère de sa majesté, tu viens la remplacer. De la disparition de son épouse très aimée, l'empereur se sentit profondément accablé. Il dépêcha de tous côtés soldats et officiers avec tam-tam et tambour dans le but de la retrouver. Sans succès. Son cœur était brisé de tristesse et envahi de douleur. Or, un jour que les eunuques étendaient dans le jardin impérial les vêtements fraîchement lavés de sa majesté, voici qu'un loriot très distinctement leur chanta. « Si vous faites sécher les vêtements de mon époux, suspendez-les à des perches de bambou. Ne les étendez jamais sur des haies, de peur de les déchirer. » Ces paroles ayant été rapportées à l'empereur, celui-ci se hâta d'aller écouter l'oiseau qui emplissait, paraît-il, de son chant humain, son jardin précieux. Troublé, et lui murmura alors « Loriot, gentil Loriot, si tu es mon épouse réincarnée, si tu es sa métamorphose en oiseau parleur, entre vite, vite, je t'en prie, dans la manche de ma robe. » Aussitôt, l'oiseau vint se blottir dans la soie contre son bras et sa présence tiède et douce semblait la plus suave des caresses. Dès lors, jour et nuit, l'empereur passa tous ses moments de loisir auprès de la cage d'or et de vermillon de son Loriot de prédilection. Pas un instant il ne pensait à Kaam, la sœur cadette, qui continuait de vivre au palais et de jalousie grinçait des dents. Instruite de l'affaire, sa mère lui conseilla alors de tuer le Loriot, de manger sa chair et de jeter ses plumes dans le jardin. « Comment se fait-il que je ne retrouve plus mon oiseau parleur ?» demanda l'empereur consterné, mais nul ne put lui répondre. Les plumes du Loriot dispersées derrière le palais devaient surgir deux flamboyants, tels que le jardin impérial n'en avait jamais possédé. L'empereur, fasciné par leur beauté, fit suspendre entre leurs troncs un hamac rose pour s'y délasser au frais. Mis au courant par Kaam de ce fait nouveau, sa mère la poussa à faire abattre les arbres dont les troncs servirent à confectionner un métier à tisser pour son usage personnel. Mais dès que Kaam voulait s'en servir, le métier disait « Tu m'as supplanté, moi, ta sœur aînée. À toi qui m'as pris mon époux, je crèverai les yeux. Débarrasse-toi de ce métier maudit. Fais-le brûler et que ses cendres soient jetées loin d'ici, » lui dit sa mère. Ce qui fut fait. Peu après, des cendres répandues au bord du chemin naquit un plaque minier splendide qui intriguait les passants. Pourquoi donc ne portait-il aucun fruit ? Ce plaque minier est vraiment une merveille. Pourquoi donc n'y voit-on aucun fruit ? S'étonna à son tour une vieille marchande, un jour qu'elle s'était assise à son pied pour se reposer. Elle scrutait le feuillage quand elle aperçut au faîte de l'arbre un fruit solitaire, superbement rond, d'une ravissante couleur et d'une beauté achevée, sorti tout droit, semblait-il, du jardin de l'empereur de Jade. « Oh !» se dit-elle, « je serais si heureuse si ce fruit pouvait se détacher. » Elle fit ce souhait. « Kaki, Kaki, tombe doucement dans mon panier. Je voudrais tant te regarder, te respirer, pas te manger. » Ainsi sollicitée, la plaque mine tomba. Ravie, la vieille femme l'emporta dans la paillote où elle tenait son modeste négoce de soupe, de thé et de friandises du bord des routes. Le lendemain, comme chaque jour qui venait, la vieille marchande partit très tôt s'approvisionner au marché. À son retour, une surprise l'attendait. Qui donc avait rangé sa maison, balayé sa cour de si plaisante façon, et préparé sur un plateau tout ce repas complet de riz, de viande et de bouillon, et ces gracieuses chiques de bétel ? Et tous les jours, il en était ainsi. Et tous les jours, elle se disait « Comment se fait-il donc qu'à mon retour, je trouve ma cour en ordre et mon repas servi ?» Un matin, elle fit semblant de partir au marché. Puis, aussi silencieuse qu'une feuille, revint coller son œil contre la clé de bambou. Bouche de carpe écarquillée, sursaut de surprise. Voilà qu'une jeune fille d'une extraordinaire beauté se tenait au milieu de sa pauvre paillote. D'où sortait cette personne qu'elle n'avait pas vue entrer dans sa maison ? Se doutant alors que la plaque mine cachait une métamorphose, la vieille marchande courut chercher le fruit déposé dans la jarderie. Mais elle ne trouva plus qu'une pelure vide qu'elle déchira en maints morceaux, et alla cacher ailleurs avant de rentrer brusquement dans la maison en toussant pour attirer l'attention. Arrachée à son enchantement, la jeune fille voulut fuir et rentrer dans la plaque mine, mais celle-ci avait disparu. Comprenant que c'était une fée, la vieille marchande, remplie de joie, la prit affectueusement par la taille, et la fée vécut désormais chez elle comme sa propre fille, l'aidant dans son commerce que sa beauté et son amabilité sans pareil ne tardèrent pas à rendre florissant. Des nuits de brise légère et de lune claire se succédèrent. Il advint qu'un jour vint à passer par là le palanquin de l'empereur, qui, escorté de quelques serviteurs, voyageait incognito. L'aspect vénérable et prospère de la boutique séduisait sur le champ sa majesté et lui donna envie de s'y désaltérer. Respectueusement, la vieille marchande lui servit aussitôt dans un bol bien chaud et bien couvert du thé parfumé et lui offrit des chiques de bétel artistement roulées en ailes de phénix. Alors vu, sa majesté sentit ses esprits vitaux s'évaporer. « Qui a confectionné ces chiques de bétel ? » demanda-t-il bouleversé, car elles étaient en tout point semblables à celles que lui préparait jadis son épouse disparue. La vieille marchande ne sachant que répondre, l'empereur véhément ordonna. « Vieille, dites-moi bien clairement et tout de suite qui elle est. » Alors la vieille marchande avoua que c'était sa fille et l'appela. À l'instant où la fée parut sur le seuil, l'empereur crut vivre un songe, les yeux grands ouverts. C'était trait pour trait l'ancienne reine Taam, c'était son épouse, très aimée. Interrompant ses prosternations avec des pleurs de joie, il lui prit les mains et la releva. Elle était bien telle qu'autrefois, et même plus belle encore. Ayant généreusement récompensé la vieille marchande, il ramena sa précieuse épouse au palais. Kaam, en la revoyant, s'exclama « Tu étais morte, te voilà donc ressuscitée !» Et elle se mit à vanter sa beauté, sa peau si blanche et si veloutée. « Comment fais-tu donc pour posséder cette beauté merveilleuse qui est la perfection même ?»« Veux-tu la voir à ton tour, ma cadette ?»«
Oui, sœur aînée, » répondit Kaam.
« Soit, » dit Taam. Pendant qu'on chauffait de l'eau dans un énorme chaudron, un profond fossé fut aussitôt creusé. Tout au rêve d'être belle, Kaam y descendit. Alors Taam fit verser sur elle l'eau bouillante en grande abondance. Kaam étant morte, Taam ordonna à ses serviteurs de hacher son cadavre en menus morceaux, de le faire mariner dans la saumure avant de le placer dans une jarre qui fut offerte à la marâtre. « C'est une provision de saumure, » dirent les serviteurs, « que votre fille vous envoie. » Et la marâtre de se réjouir du cadeau de sa fille et de se dire « Taam, ma fille adoptive, quand elle était reine, ne m'a jamais rien fait d'envoyer. » Elle est morte, c'est un peu plus heureux pour moi. Comme elle trouvait le mets délicieux, elle en goûtait à chaque repas. Et à chaque repas, un corbeau perché sur le toit lui criait « Pas si bonne que cela, tu manges la chair de ton enfant et tu la trouves délicieuse. Donne-moi un morceau s'il t'en reste encore. » « Maudit animal !» criait la vieille en le chassant à coups de pierre, mais toujours il revenait. La jarre de viande salée commençait à s'épuiser. La vieille allait bientôt la terminer quand au fond de la jarre, elle aperçut une longue mèche de cheveux noirs qu'elle empoignait avec dégoût. Au bout se balançait la tête de Kaam, sa fille. D'horreur, de saisissement, de douleur, ses âmes inférieures et supérieures s'envolèrent et elle tomba raide morte. Terrible est la voix du ciel qui prévoit de rendre la pareille pour le bien et pour le mal.